20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
Ravi de vous retrouver tout au long de cette semaine pour le journal du classique. L'invité ce soir sera dans un instant Patricia Petitbon pour une actualité particulièrement riche. Mais tout d'abord, un coup de chapeau au trophée Radio Classique de la semaine qui est attribué à ce double disque Vivaldi par l'ensemble Le Consort, dirigé du violon par Théotime Langlois de Swart. Christian Morin vous l'a présenté longuement ce matin dans Tous Classiques. Dans ce disque, vous trouverez un célèbre concerto pour violon. Il fait partie de l'opus 8, plus connu sous le nom des Quatre Saisons. L'ensemble Le Consort a enregistré l'été dans ce qui est appelé la version de Gênes, autrement dit un enregistrement réalisé à partir d'un manuscrit conservé à Gênes et qui serait la version originale de l'été avant que Vivaldi ne fasse publier la partition en apportant quelques modifications. Voici donc l'été de Vivaldi dans cette version de Gênes. L'été, les Quatre Saisons de Vivaldi par l'ensemble Le Consort dirigé du violon par Théotime Langlois de Swart, c'est le trophée Radio Classique de la semaine.
Le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
Invité du Journal du Classique ce soir, Patricia Petitbon, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, votre actualité est particulièrement riche, et c'est un euphémisme que de dire ça. Jusqu'à jeudi, le 22 février, vous chantez Despine, Così fan tutte Mozart, au Châtelet, sous la direction de Christophe Rousset, dans la mise en scène de Dimitri Tcherniakov. Le mois prochain, alors j'espère que vous avez un agenda pour le noter, chers auditeurs, le 14 mars, vous chanterez à la cathédrale Saint-Louis des Invalides pour un concert avec Suzanne Manoff et d'autres invités. Concert intitulé L'amour, la mort, la mère. Le 21 mars, récital au musée d'Orsay, de nouveau avec Suzanne Manoff. Et puis en avril, le 4 à la scène musicale, le 6 à Arras avec l'ensemble Amaryllis pour un programme de musique baroque, Flamme de magicienne. Et puis en avril toujours, le 23, concert à Poissy en Ile-de-France, Destin de Rennes. Et puis à partir du 26 avril, vous dirigerez avec Héloïse Gaillard la deuxième session de l'Académie Les Chants d'Ulysse à l'abbaye de Fontevraud dans le Maine-et-Loire. Et Patricia Petitbon, ça donne le tournis à un tel agenda, non? Ou c'est ordinaire finalement?
Ordinaire, non, c'est jamais ordinaire en fait de monter sur scène, c'est toujours ouais. Une première fois. Moi, je n'aime pas les habitudes. En vérité, je touche toujours du bois avant de rentrer sur scène parce que ce n'est jamais gagné, ce n'est jamais acquis. Et donc, c'est une chance de pouvoir se produire sur scène, oui.
Alors, on va commencer par Despine, si vous voulez, le oui. Châtelet. C'est une maison mythique déjà, quand même, ce théâtre.
Ah oui, c'est une maison extraordinaire. Il y a eu beaucoup de chanteurs, puis de chanteurs d'opérette, comme Luis Mariano. Non, voilà, c'est une maison qui respire, c'est une éponge, une acoustique extraordinaire, vraiment. La bonne taille pour les voix. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu d'opéra.
Et oui.
Voilà. Donc
c'est le retour de l'opéra.
C'est le retour.
Du Châtelet.
Ah oui, ça fait du bien quand même, parce que je pense qu'on a besoin d'avoir cette proximité, non seulement entre les genres de musique un peu hybrides, la comédie musicale, mais nous sommes vraiment dans cette ère du temps où je pense que nous pouvons nous attaquer au mélange, aux symbioses.
Et vous savez de quoi vous parlez quand vous parlez de mélange, parce que vous avez quand même l'éclectisme et votre marque de fabrique.
Mais je pense que actuellement, oui, la jeunesse s'intéresse à toutes formes de musique. Vous avez des musiciens classiques qui s'intéressent au jazz, et aussi parce que maintenant il y a des lieux de formation. Donc il a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'années pour voir éclore aussi cette nouvelle forme de mélange qu'on avait surtout aux États-Unis d'une certaine manière, mais je trouve que ce qui se passe au Châtelet c'est très intéressant. Il y a le cabaret club, d'ailleurs je vais y participer avec Olivier Pie aussi au mois de juin. Donc c'est d'avoir toujours la présence aussi de la musique en tant que festoyer, fêter la musique en joie, avec exigence. Je crois que ça, c'est une chose très importante.
Alors, ce rôle de Despine, vous l'aviez chanté à Salzbourg en 2009, pour la première fois. Vous l'aviez repris depuis?
Non, pas depuis. J'avais eu d'autres propositions. Ouais. Enfin, c'est-à-dire, c'est un rôle très particulier, comme tous les rôles un peu de caractère, comme ça, que ce soit Suzanne dans Les Noces de Figaro. Despina, ce sont des rôles qui ont une exigence vocale, même si ça n'a pas l'air, mais Mozart s'est toujours corseté, mais une exigence scénique, théâtrale. Et donc, pour incarner un personnage tel que Despina, il faut un metteur en scène qui insuffle quelque chose.
Et là, vous êtes servi, a priori. C'est la mise en scène qu'on avait vue l'an dernier.
Ah oui, c'était Dimitri Tcherniakov. Ouais. Je suis ravie.
Ouais.
Je jubile. Je ris, mais je ris sur scène.
C'est vrai.
C'est extraordinaire. Ouais. D'abord, j'ai des collègues extraordinaires. Je tiens à les citer. Il y a Rainer Trost, Russell Brown, mon partenaire qui fait Don Alfonso, qui est l'autre méchant de la troupe, Georg Nigel, deux femmes aussi exceptionnelles, Claudia Manke et Agneta Eichenholz. Et donc, ce n'est plus, vous voyez, des rôles qui sont, comment dire, plaqués. Il y a un vrai jeu de comédia dell'arte, de presque cinématographique. Il y a une véritable cohésion entre nous, une véritable empathie aussi. C'est comme une troupe. Et ça, c'est vraiment extraordinaire de retrouver ce lien très fort, parce que il y a beaucoup de, voilà, il y a, on est, on, on, nos cœurs sont vraiment liés, enchaînés dans l'art du chant. On s'inquiète pour l'autre, on est...
C'est un esprit de troupe un petit peu finalement.
Mais tout à fait, mais c'est très rare ça, c'est très très rare à ce point-là. Donc c'est assez exceptionnel, plus évidemment Christophe Roussel, les talents lyriques, voilà. C'est un tout l'opéra. Et quand tout est réuni et surtout la bienveillance, ben c'est vrai que c'est une joie.
C'est une joie. Ouais. On va vous écouter, c'est une joie évidemment de vous écouter aussi à chaque fois. Là, c'est pas de l'opéra, mais c'est de la mélodie française, Gabriel Fauré, au bord de l'eau avec Suzanne Manoff.
S'asseoir tous deux au bord du flot qui passe, le voir passer, tous deux s'il glisse un nuage en l'espace, le voir glisser à l'horizon ses fumes, un toit de chaume, le voir fumer aux alentours si quelques fleurs en baume s'en embaumer, entendre au pied du sang loup l'eau murmurer.
Patricia Petitbon, au bord de l'eau de Gabriel Fauré avec Suzanne Manoff. Patricia Petitbon qui est l'invitée du Journal du Classique ce soir sur Radio Classique. Et vous serez en concert le 14 mars prochain à la cathédrale Saint-Louis des Invalides à Paris pour un concert qui mêlera donc mélodie française ainsi que des airs traditionnels irlandais et bretons entre autres. Vous aimez une nouvelle fois, on en parlait tout à l'heure, le mélange des genres. Il n'y aura pas que Suzanne Manoff d'ailleurs.
Il y aura Christian-Pierre Lamarca au violoncelle et puis il y aura aussi un joueur de Yolan Pipe et de flûte aussi. Irlandaise, c'est Ronan Le Bars qui est un des grands joueurs de cet instrument. Ben moi, je suis, vous savez, je suis bretonne, hein. Donc évidemment, ça rôde autour de moi tout l'esprit celtique. Puis aussi marier justement le violoncelle au piano, chercher des moyens d'improviser. Quelque part avoir une sorte d'hybridation, on peut dire, avec la musique dite populaire, c'est très important pour moi, de surtout dans des lieux qui résonnent, hein, comme le lieu où nous allons chanter,
la cathédrale Saint-Louis des Invalides, voilà, qui n'est pas une acoustique facile.
Que je pense qu'il y aura quand même une sonorisation, parce qu'évidemment nous ne sommes pas des dieux vivants, il faut nous aider un petit peu, c'est évident, mais ça c'est intéressant parce qu'on va pouvoir justement entrer dans quelque chose d'intime et sans forcer la voix, parce qu'évidemment, avec une acoustique, avec un écho tel que la cathédrale, ça sera compliqué. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir explorer ce genre de récital avec justement un musicien qui vient de la musique, je dirais, traditionnelle, populaire.
Vous disiez tout à l'heure que monter sur scène était un plaisir, et là vous variez aussi les répertoires, l'opéra donc avec Così fan tutte, là, de la mélodie. L'un nourrit l'autre, c'est important pour une chanteuse de passer d'un exercice à l'autre.
C'est très important. L'opéra est très important pour moi. Il doit être... C'est central, évidemment. C'est tellement central que je ne veux pas l'exercer 12 mois sur 12, parce que ça demande une grande concentration, ça demande d'être physiquement présent, capable, ça demande de se dépasser, et donc c'est souvent là qu'on cherche à fond la vocalité, la théâtralité, et c'est vrai qu'après 2 mois d'opéra, on est assez fatigué, mais surtout, ce que je recherche, c'est les rencontres. C'est les rencontres avec les collègues, les chefs d'orchestre, les orchestres et le metteur en scène. Et c'est vrai que la rencontre avec Dimitri Tcherniakov ou Olivier Pie, voilà, ce sont des rencontres explosives parce qu'elles apportent quelque chose de neuf, du sang neuf. Et quand on voit la mise en scène de Così fan tutte, par exemple, bon, qui donne à parler, évidemment, mais je trouve ça extraordinaire, parce que finalement, Mozart a plusieurs vies, vous voyez. C'est un cerveau, on va dire, augmenté grâce à Tcherniakov, parce que nous ne restons pas dans une boîte. Nous explorons grâce aux mœurs, à notre contemporain, en fait, l'être humain, l'âme humaine qui se déplace, et Mozart se déplace avec nous. Il devient presque voilà, hybride, lui aussi. Et c'est ce qui permet justement la transmission du passé au présent. Donc c'est très important parce que il faut oser, en fait.
Et là, vous aimez les metteurs en scène qui osent. Vous parliez d'Olivier Pie, c'est évidemment son cas, Tcherniakov également.
Oui, ce sont des styles très différents. Sûr, Katie Mitchell, j'apprends énormément et ça me permet aussi de me dépasser et puis de donner du sens au chant. Mais je crois que dans toute chose, que ça soit l'opéra, que ça soit la littérature, que ça soit l'enseignement, l'éducation, je pense qu'il faut se projeter vers un futur et augmenter quelquefois nos cerveaux afin de se projeter effectivement dans l'avenir et dans le fait que la nouvelle génération qui arrive, ceux qui écoutent, doivent aussi adhérer d'une certaine manière à ce qui arrive, quoi. C'est très très important.
Alors on va en parler, c'est un très bon teasing, ça, l'enseignement. On va parler des chants d'Ulysse dans un instant, mais on va vous écouter musique baroque, parce que c'était aussi quand même vos débuts de carrière, la musique baroque.
Ah, ben,
vous y revenez toujours, d'ailleurs, finalement, avec Héloïse Gaillard.
Ouais. Oui, maintenant j'y reviens, en fait. J'ai débuté, c'est vrai, avec William Christie et Christophe Rousset.
Absolument.
J'ai vraiment fait mes débuts avec Christophe. Je passais des journées entières dans sa classe, parce qu'il était professeur au Conservatoire de Paris. Donc pour moi, c'était un véritable laboratoire de tout, de joie surtout, de pouvoir échanger avec ses clavecinistes à l'époque. Et puis, je me suis évidemment dirigée vers des opéras un petit peu plus contemporains, comme Loulou, voilà, des compositeurs. J'ai pas voulu m'enfermer dans la musique baroque pour pouvoir donner à la voix plus d'espace, plus d'amplitude.
Bon, musique baroque quand même, c'est l'air de Morgane, oui. Ton ami Avagheggiar, Alcina, Handel. Patricia Petitbon avec l'orchestre baroque de Venise, dirigé par Andrea Marcon, l'air de Morgana, ton ami Avagheggiar, qui est extrait d'Alcina de Handel. C'est par le baroque, Patricia Petitbon, que vous avez commencé, on le disait il y a un instant, il ne vous a pas quitté, enfin vous y revenez d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant.
Ah oui, il ne m'a jamais quitté, surtout ce qui est intéressant, c'est la tragédie aussi. Ouais. C'est en fait, il y en a pour tous les âges.
Voyez, voilà,
donc c'est vrai
important.
Que les tragédiennes m'intéressent grandement, surtout maintenant. Donc Et puis c'est très vaste le baroque. Et il y a ce côté justement de l'improvisation qui est très proche aussi des jazzman. Donc pour ça que la musique baroque c'était quelque chose d'important pour moi de débuter. J'ai eu cette chance de débuter parce que ça n'a pas forcé l'instrument. Vous voyez, je n'ai pas sauté à pieds joints dans des Strauss, dans des choses. Parce que l'opéra, c'est violent. C'est très violent physiquement. Donc, il faut ménager un petit peu sa monture. Il faut savoir se reposer.
Et savoir dire non aussi, parfois, à certaines propositions.
Oui. Il faut savoir dire non et il faut savoir dire oui.
Bon.
C'est ça qui est
important.
Mais alors, il faut risquer quand même dans la vie. Il faut vivre.
Il faut prendre des risques.
Avec un peu de danger.
Un mot encore du baroque, parce qu'il y a trois concerts à votre agenda. 4 avril à la scène musicale, 6 avril à Arras, 23 avril à Poissy, avec Héloïse Gaillard et son ensemble à Marilis. Ça fait une trentaine d'années, c'est ça, que vous travaillez avec Héloïse Gaillard
aussi.
Ouais. Vous êtes fidèle.
Nous sommes de grandes amies. Ouais. Nous sommes rencontrés au Conservatoire supérieur de Paris. Vous savez, le département baroque était très petit, donc on se croisait tous. Et c'est vrai que, voilà, c'est une femme exceptionnelle, d'engagement, auprès des jeunes aussi. On peut dire que vraiment, fait partie des femmes qui se relèvent les manches et qui ont beaucoup de mérite, hein, dans cette société.
Et vous avez fondé avec elle l'an dernier les Chants d'Ulysse. C'est une académie à l'abbaye de Fontevraud dans le Maine-et-Loire, sous le parrainage, on y revient, d'Olivier Py. La deuxième session...
Et au Dôme de Saumur.
Et au Dôme de Saumur.
Les deux villes sont liées.
Pour des conférences notamment.
Et des concerts surtout.
Des concerts aussi. Et la prochaine session, la deuxième, donc, débutera le 26 avril, avec cette devise, pourrait-on dire, enseigner, partager et transmettre. La transmission et l'enseignement, ça c'est quelque chose de primordial pour vous.
C'est naturel, c'est un peu le...
Pas pour tout le monde, si?
Je sais pas.
En tant
qu'homo sapiens, je trouve que c'est une belle chose de vouloir transmettre. Il y a toujours quelqu'un qui a envie de recevoir aussi. Donc c'est dans les deux sens. Hein.
Il faut que quelqu'un accepte de recevoir justement.
Oui,
c'est
aussi.
Ça.
Oui. Mais c'est vrai que pour moi, moi je viens d'une famille de professeurs, donc voilà. J'ai pas suivi cette voie-là, mais il me semble important de mettre l'éducation, la transmission au cœur aussi de la société, quoi. C'est ce qui fait l'individu, c'est ce qui va l'aider à grandir, c'est ce qui va les arts en tout cas permettent aussi d'apercevoir une certaine forme de beauté, une certaine forme de quiétude, de prendre confiance en soi. Et ce que je n'aime pas, en fait, c'est tout ce qui est compétitif. Voilà. Donc, j'élimine cette notion-là. Je trouve que ce qui est beau, c'est de travailler sur l'individu, sur la singularité. C'est de trouver chez chacun, en chacun de ses défauts, les qualités, en vérité. Donc, avec Héloïse, on se rencontre très bien sur ce plan-là. Et surtout, de toujours être en joie dans le travail. Et... je crois que c'est un des thèmes majeurs, un questionnement majeur, que ça soit dans l'éducation nationale actuellement. Comment renouveler l'éducation avec des enfants qui sont complètement différents, je ne suis pas certaine que l'école actuelle réponde à la nouvelle génération. Je crois que nous avons laissé stagner beaucoup de choses. Nos pauvres professeurs se débattent dans un océan sans fond. Et c'est bien d'en parler parce que c'est vrai dans toutes les disciplines. Ce qui fait une république, un individu responsable, c'est quelqu'un qui va pouvoir aussi réfléchir, qui va pouvoir se développer dans une société.
Et grâce notamment à la musique aussi, c'est ça qui est important.
Oui, les arts sont très importants. Et je pense que...
Mais vous ne plaidez pas que pour la musique classique, c'est ça qui est intéressant.
Non, je ne plaide pas que pour la musique classique. Vous savez, dans notre académie, il y a une jeune femme qui est venue... On sait très peu de choses quelquefois sur les académiciens. Et à la fin de l'académie, on se rend compte que les personnes que nous avons attirées aussi sont des personnes qui ont des liens Par exemple, il y a une femme qui est venue pendant une semaine et qui est venue pour enseigner à des adolescents en difficulté. Et donc ça, pour moi, c'est très important, ce lien de transmission, parce que c'est sur le terrain aussi qu'on agit. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à dire.
Et c'est comme ça qu'on renouvelle aussi le public de la musique classique.
Oui, je pense qu'il a besoin d'être renouvelé. Ouais. Oui, effectivement, il faut pas rester là dans nos cartons vieillis. La musique classique est en danger aussi. Et puis, il y a des discours qui sont vraiment assez rétrogrades. On dit la musique classique, c'est pour les personnes âgées, tout ça.
Non, mais ça, c'est élitiste, on entend beaucoup aussi ça.
Oui, c'est n'importe quoi en fait. Tu vois, aller sur le terrain, il y a beaucoup d'acteurs, de gens dans les conservatoires qui font beaucoup de choses auprès des jeunes. Donc, mais par contre, je pense que nous avons besoin de moyens. Et je pense que les arts ont intérêt à entrer à l'école, mais pas de manière obligatoire, voyez-vous.
Il faut que ça reste un plaisir, c'est ça.
Oui, il faut pas mettre les jeunes face à une obligation. Je suis pas certaine qu'un uniforme règle toutes les lacunes de l'éducation. Je pense qu'il faut travailler en profondeur, comme enraciner, créer son jardin, créer de nouveaux jardins. Il y a tellement de choses à faire et à imaginer. Je ne peux pas imaginer que dans notre pays, il n'y ait pas d'âme suffisamment forte pour entreprendre une nouvelle école, une école du futur. Parce que beaucoup de jeunes sont en dépression, y compris des gens très brillants. Donc, je crois que vraiment, il y a un malaise dans cette société. Il faut dire qu'il y a une perte de sens. Donc, c'est une chose, je n'ai pas peur de le dire.
Vous l'avez dit.
Voilà, c'est important d'essayer d'apporter sa pierre.
Alors, il est déjà l'heure de se quitter. Patricia oui. Petitbon, on se quitte avec Mozart et
oui.
Suzanne.
Ah, oui, Suzanne.
Scherza Laura, che col
Patricia Petitbon dans le dernier air de Suzanne, les noces du Figaro de Mozart, Devieni non tardar, avec le concerto Köln dirigé par Daniel Harding. Patricia Petitbon qui était l'invitée du Journal du Classique ce soir. Demain, je recevrai David Grimal pour parler de l'autre saison, cette série de concerts mensuels à l'église Saint-Leu, Saint-Gilles de Paris. Dans l'immédiat, c'est avec Francis Drezel que vous avez rendez-vous. Bonne soirée avec Radio Classique et à demain.